Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yacouba Ouédraogo, de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est midi à Washington, 16h en temps universel. En Afghanistan, le président Ashraf Ghani a quitté le pays, annonce l'ancien vice-président Abdullah Abdullah. L'ancien président afghan a quitté la nation, a déclaré M. Abdullah, qui est aussi le chef du Haut Conseil pour la Réconciliation Nationale, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. L'émirat islamique ordonne à toutes ses forces d'attendre aux portes de Kaboul, a annoncé ce tuteur, Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans, puis il a ajouté qu'elles sont autorisées à pénétrer dans les zones de la capitale abandonnées par l'armée afghane pour y maintenir l'ordre. Les talibans ont aussi promis qu'ils ne cherchent à se venger de personne, y compris des militaires ou fonctionnaires ayant servi pour l'actuel gouvernement, appelant à ne pas s'inquiéter. Le ministre de l'Intérieur, Abdul Sattar Mirzakhwal, a assuré qu'un transfert pacifique du pouvoir vers un gouvernement de transition va avoir lieu. Le retrait des troupes de l'OTAN dans le pays, dans la foulée des troupes américaines annoncées par le président Joe Biden, a offert aux talibans la possibilité d'accélérer leur retour au pouvoir. La Turquie dit œuvrer avec le Pakistan à une stabilisation de la situation pour enrayer un afflux de réfugiés en provenance de ce pays en guerre, a affirmé le président Recep Tayyip Erdogan. États-Unis et Royaume-Uni ont déployé plusieurs milliers de soldats pour évacuer leur personnel diplomatique et les Afghans ayant travaillé pour eux et qui craignent désormais de possibles représailles. La France annonce le rapatriement de ses ressortissants. L'Allemagne a déplacé ce dimanche son personnel diplomatique dans l'aéroport de Kaboul avant une évacuation prévue demain. En Haïti, des équipes de sauveteurs cherchent des survivants au lendemain d'un séisme de magnitude 7,2. Ce séisme a fait au moins 304 morts et plus de 1800 blessés. Et s'est produit dans le sud-ouest de l'île, à 160 km de Port-au-Prince, selon les données de l'Institut américain de géophysique. De nombreux bâtiments se sont effondrés lors de la puissante secousse qui a piégé des centaines d'habitants sous les dalles des bétons. Le chef du gouvernement, Ariel Henry, a annoncé l'état d'urgence pour un mois sur les quatre départements affectés par la catastrophe. Le président américain Joe Biden a offert hier l'assistance immédiate des États-Unis à travers l'Agence américaine d'aide internationale USAID. Sur le continent, en Zambie, l'opposition appelle le président Edgar Lungu à concéder sa défaite hier. La commission électorale a annoncé les résultats de 62 circonscriptions sur un total de 156, donnant plus d'un million de voix à Hichilema contre plus de 500 000 pour M. Lungu. Selon les totaux additionnés ce dimanche par l'AFP sur 41 circonscriptions supplémentaires, Hichilema récupère encore près de 820 000 voix contre près de 490 000 pour M. Lungu. Au Congo, dans un message à la radio et à la télévision d'État à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président Denis Sassou Nguesso appelle ses concitoyens à adhérer massivement à la vaccination contre le COVID-19 pour atteindre l'immunité collective. Seuls 1,8 à 2% de la population éligible à la vaccination ont reçu leur dose à cause des résistances et de la méfiance que suscitent les vaccins, selon le ministère de la Santé. La campagne de vaccination a démarré au Congo en avril dernier avec les vaccins chinois Sinopharm et russe Sputnik. Officiellement, le Congo-Brazzaville a enregistré plus de 13 300 cas de COVID-19 et 179 décès. Au Nigeria, le gouvernement a imposé un couvre-feu dans les districts de Jos Nord, Bassa et Jos Sud. De 18h à 6h, hier, l'attaque d'un convoi de pèlerins musulmans par une milice chrétienne dans cette région a fait au moins 23 morts. Un groupe d'assaillants suspectés d'être des jeunes Irubés, ethnie majoritairement chrétienne, ont attaqué un convoi de 5 bus avec des pèlerins musulmans à bord, a déclaré Uba Ogaba, porte-parole de la police. Cette région est depuis des années le théâtre des conflits entre pasteurs nomades majoritairement musulmans et cultivateurs chrétiens au sujet du contrôle de l'eau et des terres. En Algérie, les pompiers tentaient ce dimanche d'éteindre encore 19 feux actifs dans 10 préfectures du nord du pays. Depuis lundi dernier, des incendies de forêt ont fait 90 morts, dont 33 militaires selon les autorités. Elles affirment qu'il ne reste plus que 2 incendies à maîtriser à Tizi Ouzou, qui a enregistré les plus grands incendies et pertes humaines. Le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé jeudi que la plupart des incendies sont d'origine criminelle et a annoncé que 22 suspects ont été arrêtés. Au Maroc, des feux de forêt se sont aussi déclarés dans le nord où des équipes de pompiers tentent de lutter contre les flammes pour la deuxième journée consécutive. C'est tout pour ce bulletin. Merci à vous de l'avoir suivi.